Voici ce qu'écrivait le Mahatma Gandhi dans son autobiographie spirituelle. Au début de ma vie, je ne croyais ni en Dieu ni en la prière. Et à mesure que le temps passait, ma foi en Dieu augmenta et mon besoin de prière devint de plus en plus irrésistible. Aujourd'hui, je crois que c'est le même pinceau qui nous a tous dessinés. Nous sommes les enfants d'un même Créateur. Et tandis qu'autour de nous, tout change, tout meurt, une force de vie demeure, immuable, mystérieuse, indéfinissable et foncièrement bienveillante. Elle soutient les êtres, les guide, les transforme. Elle pénètre tout ce qui est, et cette force n'est autre que Dieu. Tout ce qui m'a été donné de pouvoir faire dans ma vie est dû au fait qu'à travers mes limites, j'ai découvert l'action de cette force autre que la mienne, cette force que l'on peut prier, et cette force qui peut nous guider. La prière est maintenant pour moi aussi indispensable à mon âme que la nourriture l'est à mon corps. Il m'est devenu impossible d'être heureux sans prier. La prière me soutient, elle me guide, elle me donne la paix, elle me donne la sérénité. Alors soyez tous les bienvenus, vous qui êtes venus ici pour trouver la paix à travers la prière et la méditation des Écritures. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ce cantique que nous chantons maintenant ensemble au numéro 387, le bon berger, le Dieu très haut est mon gardien fidèle. Voilà, on a un mois pour l'apprendre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 20 et jusqu'au verset 28. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. J'ai déjà eu l'occasion de citer dans une prédication à la cathédrale cette incroyable correspondance que j'ai découverte entre Gandhi et Tolstoï quand Gandhi était encore un modeste avocat perdu au fin fond du Transvaal et que Tolstoï régnait depuis Isnaïa Polyana sur le monde intellectuel et moral de l'aube du XXe siècle. Et Gandhi, beaucoup plus jeune que Tolstoï, lui avait demandé conseil pour savoir comment défendre les victimes de l'oppression coloniale en Afrique du Sud. Et la lettre a cheminé depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Crimée. Et Tolstoï a répondu à la demande de Gandhi qui n'était personne. Et il lui a fait découvrir au fond le sermon sur la montagne. Et 20 ans plus tard, Gandhi notera dans ses mémoires « À mesure qu'augmentait mon contact avec les vrais chrétiens, je vis que le sermon sur la montagne était tout le christianisme pour qui veut vivre la vie chrétienne. Et c'est ce sermon qui m'a fait aimer Jésus. » On passe pourtant souvent à côté du sens de ce sermon où Jésus ne nous dit pas, par exemple, qu'il faudrait pardonner les peines subies et supporter l'insupportable. C'est une très mauvaise lecture et une très mauvaise compréhension de ce sermon. Qu'il faudrait se réconcilier et tomber dans les bras de ses bourreaux. Jésus ne fait pas l'apologie d'un monde sans justice. Il demande exactement l'inverse. Il demande plus de justice, une justice plus haute, plus forte et plus radicale. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc avec Jésus, il n'y a plus une, mais deux justices. Il y a la justice de base, la justice ordinaire, celle des scribes et des pharisiens, et l'autre justice, celle à laquelle il appelle ses disciples, une justice beaucoup plus exigeante, beaucoup plus sévère, qui s'attaque non pas seulement au mal, mais à la racine du mal, pas seulement au crime, mais à la colère qui y conduit, pas seulement à l'adultère commis, mais encore à la convoitise qui en est la source. Parce que selon lui, n'est-ce pas, les petites frustrations de la vie ordinaire ne légitiment en aucun cas ma colère à l'égard de mon frère. Et la beauté de la femme de mon voisin ne justifie en aucun cas que je la convoite. Pour Jésus, je ne peux pas laisser libre cours à mes émotions, à mon ressenti personnel, sans aucun égard pour la manière dont l'autre le reçoit et le perçoit. Le voici qui m'énerve, alors je me sens en droit de l'agresser. La voici qui me plaît, alors je me sens en droit de la courtiser. Et le Christ, dans le sermon sur la montagne, s'attaque au fond à moi. Non pas à ce que je subis, non pas à ce que les autres me font subir, mais à ce que je fais et à ce que je fais subir aux autres. Au cœur de ce passage que nous méditons, c'est capital, il n'y a pas du tout d'invitation à pardonner le mal qui m'a été fait, mais de demander pardon pour le mal que j'ai commis. Quand tu vas au temple, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse tomber le temple et va t'expliquer avec ton frère. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas si j'ai quelque chose contre mon frère qui m'a fait du tort, mais si mon frère m'en veut. Donc, si je lui ai fait de la peine, ou si je lui ai fait du mal, ou si j'ai la conscience de l'avoir blessé, alors oui, va t'expliquer avec lui avant de venir prier le Père. C'est plus important que ta prière. Le Christ ne nous place jamais dans un statut de victime, jamais. Ce n'est pas lui qui portera un gilet jaune. Il portera sa croix. Il ne légitime pas le statut de victime qui revendique et qui proteste. Il nous renvoie toujours à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à notre dignité non pas d'esclave, mais de citoyenne et de citoyen du royaume des cieux, prêt à reconnaître donc la part de mal qui est en eux, plutôt que de vivre fixé sur la part de mal qui est en autrui. C'est un premier pas vers le royaume du Père. Et chaque pas ici-bas, fait en direction du royaume du Père, ouvre un processus dynamique qui, à plus ou moins longue échéance, finit toujours par établir ici-bas la justice et la paix. Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela l'ont prouvé de la plus éclatante des manières, pour chacune et chacun d'entre nous aussi. Quand le sermon de Jésus nous sert de guide de la route ou de guide du routard, c'est tout le paysage autour de nous qui se transforme. Amen. Parmi les plus belles prières qui aient jamais été composées, celle de Saint François, né dans les terres d'Ombry, il y a si longtemps déjà, mais qui nous a laissé une spiritualité qui n'a pas pris une ride. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Et là où est la tristesse, la joie. Ô Seigneur, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimés qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Au seuil de cette nouvelle année, Seigneur, Dieu notre Père, nous confions à ta garde pour la route qui est devant nous, et nous confions à ta miséricorde toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons et qui ont particulièrement besoin de soutien en ce moment. Tu n'es pas seulement le Dieu qui nous instruit, tu es aussi le Dieu qui nous console et qui nous donne ta paix. Et c'est dans ta paix que nous disons maintenant la prière qui nous fait, qui nous rassemble et nous rassemble dans une même famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons l'étoile, salut Blanche étoile. Dans une très brève autobiographie spirituelle qui fait une quinzaine de pages, qu'il intitule « Pèlerinage à la non-violence » et qui fait partie d'un recueil de prédications, Martin Luther King raconte son itinéraire intellectuel et spirituel. Il y cite Gandhi, et voici comment. « Comme pasteur de Montgomery, quand les gens me demandèrent d'être leur porte-parole, pour protester évidemment contre la ségrégation raciale en Alabama, j'ai accepté. En acceptant cette responsabilité, mon esprit, consciemment ou inconsciemment, fut ramené au sermon sur la montagne et à la méthode gandhienne de la résistance non violente. Ce principe devint l'étoile directrice de notre mouvement. Vous voyez, les étoiles, il y en a vraiment partout. Le Christ donnait l'esprit et la motivation, Gandhi fournissait la méthode. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce sermon qui a été prêché au Moyen-Orient à l'aube du premier millénaire, qui a traversé le monde jusqu'en Crimée à la fin du 19e siècle, est reparti en Afrique où il a rejoint Gandhi, qu'il a porté en Inde et d'Inde, il est arrivé aux États-Unis, des États-Unis en Afrique du Sud, où Nelson Mandela, lui aussi, se l'est réapproprié. C'est peut-être une des paroles qui a le plus illuminé, le plus brillé dans le monde, et qui a contribué vraiment à le changer. Que Dieu nous permette de porter cette parole en nous, de continuer à changer, à nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui veut établir ici, dans nos cœurs et dans notre monde, la justice, l'équilibre, la paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.